Top Music. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
Bonjour et bienvenue sur le podium de Top Music. Le podium est un podcast qui vous fait découvrir des tranches de vie, des parcours exceptionnels, des tempéraments étonnants, accompagnés des musiques qui ont jalonné leur chemin. Passionnés et passionnants, nos invités nous partagent leurs succès, leurs défaites et nous racontent ce qui pour eux a fait la différence. Cette semaine dans le podium, on croque le parcours de Christophe Schalk. Animateur, commercial, président, Christophe a fait tous les métiers de la radio. Il l'a dans la peau et nous la raconte avec enthousiasme. Ses échecs, ses victoires, il nous livre ses recettes pour aller de l'avant. Et parce que l'on ne monte pas tout seul sur le podium, il nous dira comment bien s'entourer pour avancer. Bonjour Christophe.
Bonjour Caroline.
Aujourd'hui à la direction de Top Music, première radio des Alsaciens, ton parcours a commencé à Célesta, chez Radio Centre Alsace. Alors, je dis toujours que le hasard profite aux esprits préparés, mais force est de constater que le tien était vraiment bien préparé. Raconte-nous un petit peu comment ça a commencé.
Avant Radio Centre Alsace, je suis un peu tombé dans la radio adolescent. J'ai écouté beaucoup Europe 1 quand j'étais petit, pendant très longtemps, pendant très longues années. Et il y a 5-6 ans, quand j'ai pour la première fois suivi sur RTL Laurent Ruquier qui venait d'y poser ses valises, j'ai vraiment autour de moi dans ma voiture regardé si personne ne me regardait quand j'ai appuyé sur le bouton RTL, tellement j'avais l'impression de trahir la famille. Donc avant Radio Centre Alsace, ouais, il y avait Europe dans
Pourquoi
l'histoire
de
laquelle...
Pourquoi ? Parce que tes parents écoutaient Europe 1 ?
Non, je crois pas. Je sais plus comment les choses s'étaient faites, mais en tout cas, non, c'était mon choix. Je me rappelle d'un tout petit poste radio dans ma chambre sur lequel j'enregistrais à l'époque déjà les chansons de Grise, hein, la comédie musicale qui était sortie à l'époque.
Donc tu écoutes Europe 1, tu trahis Europe 1 pour aller sur RTL, et puis tu finis chez Radio Centre Alsace.
Je ne sais pas si je finis, mais en tout cas, oui, un jour...
tu atterris, on va dire.
Oui, tout à fait, j'atterris. Mitterrand passe par là, les radios libres sont autorisées. Il faut se souvenir quand même que les années 70, c'était encore... je ne sais pas si la censure valait encore, mais enfin, en tout cas, l'information était très contrôlée. Et donc, Mitterrand arrive et dit il faut que chacun ait voix au chapitre. Donc, on va permettre à des radios dans certaines villes, dans les villes de France, eh bien, de commencer leurs émissions. Et donc, ça a été forcément un vent de liberté qui a soufflé. Et moi, j'ai profité de ça. L'année suivante, en 82 exactement, j'avais 17 ans, et j'ai frappé à la porte d'une radio associative qui s'était créée dans ma ville, et on y a, avec deux camarades, présenté pendant plusieurs années une émission le vendredi soir qui est restée dans les annales de la radio mondiale, qui s'appelait Graffiti Rock. Je ne sais plus vraiment ce qu'on y faisait, mais on a bien rigolé.
Alors on est en 82, avec des amis, tu animes le vendredi soir Graffiti Rock sur Radio Centre Alsace, c'est l'ESTA, et on écoute quoi à cette époque-là?
Bah, du rock évidemment, parce qu'on avait frappé à la porte de la radio en leur disant oui, il n'y a pas assez de rock dans votre programmation. Donc on était fans de Quoi de Téléphone et des Clash par exemple. Ça, c'était vraiment la musique qui a marqué le début des années 80. Oui.
Tu avais déjà imaginé une émission de radio, tu étais déjà... finalement, tu étais assez passionné de radio, parce que quand on a moins de 17 ans, écouter Europe 1 en boucle, c'est relativement surprenant.
Oui, c'est vrai, j'aimais beaucoup la radio, j'étais assez timide en fait à l'époque, et je pense que la radio, ça a aussi été une forme de thérapie, parce que se retrouver à s'exprimer devant... des gens, même si on ne les voit pas, avec quelques camarades, ça a été un bon exercice quand même de... oui,
simplement. Mais t'as osé aller taper à la porte
De la radio.
De la radio.
Et je suis encore aujourd'hui sur Facebook un ancien camarade de l'époque qui de temps en temps ressort quelques photos qui valent leur pesant de cacahuètes.
Alors t'as pas fait que de la radio à cette époque-là. Donc tes parents t'ont dit passe ton bac d'abord.
Ça, c'est assez
et
classique.
Tu l'as raté, je crois.
Oh, bah, c'est gentil de le rappeler, ouais. J'avais 17 ans, donc bac français et bac l'année suivante. On est là en 84. Et j'allais moins en cours et j'allais beaucoup à la radio à l'époque. C'était juste une association, donc on y allait pour passer notre temps et d'autres allaient à la pêche ou faisaient de la philatélie, par exemple. Mais moi, c'était à la radio que je passais mon temps, ouais. Libre d'abord et puis après, tout mon temps, y compris celui qui était en théorie, dédié à mes cours.
Alors, tu m'as aussi raconté une anecdote qui m'a fait sourire. Tu as eu quand même ton bac finalement, mais tu l'as eu au rattrapage. Et le jour du rattrapage, tu avais un rendez-vous avec, à l'époque, BNP pour du sponsoring,
J'espère que ma mère ne nous écoutera pas, parce que je crois qu'elle ne le sait pas encore. Oui, j'avais le jour du rattrapage du bac, un rendez-vous commercial déjà avec une banque effectivement de l'époque qui voulait, j'imagine, faire de la pub à la radio. Et donc j'avais un choix important face à moi. Est-ce que je vais au rattrapage du bac ou est-ce que j'honore ce rendez-vous commercial ? Et donc je suis allé à ce rendez-vous commercial qui n'a jamais abouti sur rien d'ailleurs, parce que la banque ne m'a jamais rien acheté. Et donc par définition, je n'ai pas eu mon bac non plus. Et quand le relevé de notes est arrivé en face des matières du rattrapage, j'avais marqué ABS, ce qui devait signifier absent, j'imagine, à l'époque. Mais voilà, on m'a posé assez peu de questions chez moi et merci à eux.
Et je crois que tu donnais toute ta vie à cette radio, parce que tu devais également, je crois, passer un examen et tu as raconté à ton professeur que tu allais à l'enterrement d'un ami.
Ouais, c'est gentil de rappeler ça aussi. Non, j'avais en plus de la radio, on vendait des animations aux grandes surfaces de l'époque. Et donc, on avait l'occasion de faire une animation de 3 jours dans un supermarché qui, depuis, a été rayé de la carte. Et donc, j'avais très envie de faire cette animation, parce qu'économiquement, c'était une bonne affaire. Mais j'avais cours. Donc, je suis allé voir, en fait, mon conseiller principal d'éducation de l'époque, qui s'appelait Monsieur Gruber, paix à son âme. Et j'ai été lui raconter, effectivement, que j'avais un impératif qui était de me rendre aux obsèques d'un camarade qui habitait à l'autre bout du pays, je crois. Et manque de bol, quand je faisais mon animation dans la grande surface en question, monsieur et madame Gruber sont venus faire leurs courses avec leur caddie. Et donc, pour ne pas être démasqué, je les ai suivis en fait pendant les 3/4 d'heure que leurs courses ce jour-là ont duré. Et je me suis tenu à distance et ils ne m'ont jamais vu. Ils m'entendaient, mais sans savoir que c'était moi, évidemment, qui vantait toutes les 3 minutes les mérites des petits pois du rayon en question dans le magasin.
Excellent. Donc, quand on dit que tu avais la radio de la peau, c'est pas une blague.
Non.
Donc, finalement, tu avais une passion et tu occupais tes journées à vivre cette passion.
Ouais, je crois que j'ai découvert un peu tout, la musique, c'était vraiment un vent de liberté, vraiment. Et donc, j'ai participé à ça, comme ça, un peu. La vie, c'est une succession de hasards, d'intersections, on décide de prendre à droite ou à gauche. Il se trouve que cette année-là, en 82, je me suis retrouvé à cet endroit et que ça, après, effectivement, a eu, en définitive, une incidence sur toute ma vie. Ça fait 30 ans maintenant, donc c'est une longue page d'histoire, ouais.
Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui, aujourd'hui, ont des parents qui leur disent, comme les tiens, passe ton bac d'abord, on verra après ?
Alors, je vais dire à tous les jeunes, sauf aux miens, puisqu'en fait... Non, mais je crois qu'il faut... Il faut évidemment écouter ses passions. Après, il faut être raisonnable également, trouver le bon équilibre entre ce qui nous fait vibrer et ce qui peut néanmoins nous faire vivre. Quand on est parent, on est inquiet jusqu'à la fin de ses jours, même quel que soit l'âge de ses gamins. Donc, avoir des enfants qui aient des passions et des centres d'intérêt, je pense que c'est important. Il y en a tellement qui n'en ont pas et qui sont un peu passifs. Donc, il faut essayer de composer avec ça. Alors, encore une fois, ça, c'est une vision assez théorique. Hein. Ça dépend de chacun. Mais je ne crois pas qu'il faille, par contre, étouffer les passions. Il faut leur donner la possibilité de les vivre et évidemment de les transcender ou de les transformer en métier si c'est possible. Ça n'est pas tout le temps, mais idéalement ça, oui.
Donc tu passes de Célestat à Strasbourg comme ça ?
Assez vite, ouais. En 85, j'ai eu l'occasion de faire à l'époque le seul stage en fin de scolarité qui était la mienne, dans une radio qui venait de se créer, qui s'appelait Top FM, qui était en fait le prolongement d'une association strasbourgeoise qui s'appelait Canal 15 et qui a été en fait le modèle qui a précédé Top Music. Donc c'était déjà la même structure, c'était il y a donc 35 ans. Et donc je passe 3 mois, je dirais, à Strasbourg pour m'imprégner des méthodes de ce qui allait devenir Top Music dans un second temps, dans l'idée, en revenant à Célestat, transposer évidemment ce modèle-là à la petite radio qui était la nôtre sur le petit territoire centralisatien qu'on desservait à l'époque.
Et tu m'as raconté que tu faisais du commercial à ce moment-là, avec un commercial qui roulait dans sa Mitsubishi et qui écoutait...
À l'époque, c'était 85, donc Dauphin, effectivement, l'afficheur qui avait des panneaux 4x3 dans toutes les villes de France, s'était essayé à la régie des radios locales de l'époque. Il en est vite revenu d'ailleurs. Et effectivement, je partageais ces 3 mois avec un commercial, Bruno K, on va l'appeler comme ça, m'emmenait effectivement en rendez-vous. Et c'était un garçon assez particulier. Je me rappelle effectivement qu'on écoutait, il avait un très bon son dans sa voiture. Et à l'époque, c'était notamment la période de Gold, un peu plus près des étoiles, qu'on écoutait dans les rues de Strasbourg. On était un peu les rois du monde, c'était en 85.
Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. À peine un peu,
Qu'est-ce que tu as retenu finalement de ces 3 mois? Qu'est-ce qui t'a fait devenir, parce que tu vas devenir le président de cette radio à Célesta?
Oui, bien plus tard et sans l'avoir vraiment imaginé, cherché ou provoqué en tout cas. Ce que j'ai remarqué, je le savais déjà, c'était que le potentiel économique d'une ville comme Strasbourg permettait d'imaginer de faire une radio à part entière, ce qui n'était pas le cas d'un plus petit bassin tel que celui qu'on arrosait nous à l'époque. Donc il y avait une équipe assez importante à Strasbourg à la radio qui n'était pas évidemment la même dans une structure plus petite. Donc l'idée, oui, c'était déjà de se rapprocher un peu de ce modèle-là tout en gardant en tête, encore une fois, les différences commerciales possibles, puisque la radio, évidemment, on l'a financée déjà à l'époque avec la seule publicité qu'on vendait à nos annonceurs.
Mais alors, tu as gardé quand même cette idée de la radio locale?
Oui, parce que je crois que... Alors, je réponds cela aujourd'hui, j'aurais pu le faire il y a 5 ans, il y a 30 ans, évidemment, on n'en était pas là, mais... dans l'intervalle, l'information, le divertissement, tout ça est devenu très mondial, si bien que la seule chose qui veille encore aujourd'hui dans la tête des gens, c'est précisément le local. Et je pense que plus que jamais, plus les éléments dont on fait notre quotidien se feront à l'échelle globale, plus le local aura du sens. Donc aujourd'hui, on a tous dans nos poches des smartphones qui nous donnent de l'information, qui nous divertissent, qui nous font écouter de la musique, mais on sera toujours concerné par la vie dans un périmètre de 50 ou 100 km autour de chez soi, par définition, puisque c'est précisément là qu'on a posé nos valises et qu'on vit au quotidien. Donc la radio qu'on fait aujourd'hui, et on n'est pas les seuls, d'autres évidemment ont compris ça depuis très longtemps ailleurs en France et dans le monde, elle est beaucoup imprégnée de la vie locale, ce qui n'est pas antinomique avec avec une vision mondiale qu'on puisse avoir. Mais c'est vrai que les jeunes générations sont plus tournées vers l'international. Je pense qu'avec les années qui passeront, ces jeunes-là s'intéresseront aussi davantage à la vie du territoire qui est leur.
Donc tu penses que la radio a de beaux jours devant elle ?
Je pense que la radio qui se limitera demain à diffuser simplement de la musique et en perte de vitesse, aujourd'hui déjà, et donc elle le sera plus encore demain, celle qui par contre sera le reflet de la vie à l'échelle, encore une fois, d'un département, d'une région, l'Alsace est une toute petite région, mais on pourrait être aujourd'hui, nous, à l'échelle du Grand Est, si on est capable de restituer ce qu'est la vie sur ce territoire-là, oui, nos auditeurs seront toujours là. Il n'y a pas de raison que dans 5, 10, 15 ou 20 ans, comme ça, on ne s'intéresse plus à la vie du territoire qui nous abrite.
Donc ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire une radio couleur locale? Ça veut dire des infos locales? Ça veut dire...
Ça veut dire qu'il faut qu'on soit partenaire, associé, adossé à toutes les manifestations qui font la vie du territoire. Il faut que le matin, quand on se réveille, quand l'Alsacien se réveille, il ait la probabilité de nous croiser à un moment sur sa route, parce qu'il va aller visiter une exposition, parce qu'il va aller à une manifestation qui aura été organisée pour lui, parce qu'il ira au Zénith voir un concert, ou dans des salles plus petites, voir des groupes moins connus. Donc il faut que la vie, encore une fois, on a la chance en Alsace d'être sur un territoire où il se passe beaucoup de choses, dans tous les domaines, sur le plan économique, sur le plan... social, sportif et dans plein d'autres domaines, évidemment. Il faut que nous, on soit le relais de tout ça. Et idéalement, il faudrait que d'observateurs de la vie régionale, on en devienne aussi acteurs. Si on est capable de faire ça, à long terme, il n'y a pas de raison pour qu'un jour on disparaisse, qui ne sera pas, à mon avis, le cas des radios qui sont simplement des robinets à musique.
Oui, qui sont même aujourd'hui peu écoutées parce qu'on a Spotify, on a d'autres plateformes musicales.
Elles ne sont pas encore... peu écouter, mais c'est vrai que les jeunes générations aujourd'hui se détournent du média radio. Les adultes, nous, on compose avec les plateformes de streaming et la radio, mais les jeunes générations aujourd'hui, entre 13 et 25 ans, connaissent très peu la radio. C'est la voiture, c'est le fait d'être à nouveau en voiture au volant qui permet à un moment de redécouvrir des radios. Mais je le dis tout en n'y croyant pas trop, parce qu'en radio aussi, en voiture aujourd'hui aussi, on peut écouter évidemment sa plateforme de streaming favorite ou se connecter sur des supports qui ne sont pas forcément la radio, qu'il s'agisse d'informations ou de musique par exemple.
Donc on revient un tout petit peu à Célesta. Donc jusqu'à quand tu es resté, finalement tu es devenu président de cette radio?
À Célesta, oui, la radio associative à l'époque, ouais, qu'on a... ça a été 14 ans de ma vie, donc là on le lit en 2 minutes, mais 14 ans c'est long, donc on a fait beaucoup de choses sur ce territoire là qui était celui où je suis né. Simplement, mes parents étaient de grands voyageurs, puisque mon père était né 10 kilomètres à l'est de Célesta et ma mère 10 kilomètres à l'ouest, et donc moi j'étais là un peu au milieu, évidemment assez logiquement situé là géographiquement, et ça a été ma vie de 84 à 98 exactement. Et puis après, je suis allé respirer un peu en autre air, parce que le Centre Alsace, c'est une petite place quand même. Donc une fois qu'on avait serré 3200 fois la même main au courant de l'année, ça devenait un peu lassant.
Donc tu arrives à Strasbourg?
Non, j'ai fait un petit tour par Colmar d'abord entre 98 et 2000 et j'ai bossé à ce moment-là pour le compte du journal L'Alsace qui développait un réseau de radio à l'échelle du Grand Est. Les stations qu'on déployait à l'époque étaient des radios du groupe Lagardère, Europe 2 à l'époque, et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à bosser pendant 2 ans et demi avec Rémi Flimelin qui était le patron du journal L'Alsace et qui en matière de diversification avait cru à l'époque dans les années 90 à celui de la radio, donc ça a été de mars 98 à octobre 2001 exactement.
Donc après Lagardère, tu continues dans la radio ? Parce que Lagardère, c'est la presse également ?
Alors là, en l'occurrence, je de 98 à 2001, je suis au journal L'Alsace, dans une structure en fait qui est propriété du journal L'Alsace et du groupe Lagardère, donc avec lequel je commence un peu à échanger. Souvenons-nous d'Europe 1 dont je parlais tout à l'heure, qui était le bébé du groupe Lagardère à l'époque. Donc j'ai toujours une vraie tendresse pour ce groupe. Et
D'ailleurs, tu m'as raconté que tu as été à Europe 1 assez jeune et que tu as rencontré un groupe mythique.
Ouais, en fait, ça devait être en 87, hein, donc j'avais quoi, 22 ans à l'époque, et j'avais eu l'occasion effectivement d'aller retrouver à Europe Gilles Schneider, qui était patron de la rédac à l'époque, qui était le patron des journalistes d'Europe 1. Et Gilles Schneider est originaire de Bach, entre Célestat et Strasbourg, comme toute sa famille d'ailleurs. Schneider, c'est assez rigolo, c'est un pseudonyme, ce qui s'appelle Pigeon pour de vrai. Et donc je suis allé voir Gilles Schneider, patron de la rédac à ce moment-là à Europe 1, et j'ai passé un après-midi avec lui. J'avais profité du fait qu'on ait une connaissance commune pour m'inviter un peu cet après-midi-là. Et j'avais vraiment les yeux qui brillaient fort en passant la porte de la rue François 1er où Europe était à l'époque installée. Et effectivement, après la conf de Réac, on a été dans le studio Coluche avec Gilles Schneider. Et je me rappelle qu'Alain Manvel présentait une émission pour inviter les Fine Cannibals. Et donc ça reste un souvenir très fort. Ça devait être en 87. Et j'aurais bien posé là mes valises. Et si j'avais pu ne jamais repartir, ça m'aurait bien plu.
On était reparti.
Ben, je suis reparti. J'ai repris le train à l'époque, j'imagine, pour revenir à Célestat avec plein de beaux souvenirs dans les yeux. Ouais.
Bon, donc tu fais un petit passage à l'Alsace, tu rentres dans le groupe Lagardère.
Et Rémi Flimelin quitte l'Alsace en 2001, et je ne m'entends pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, avec son successeur. Donc je quitte un peu l'Alsace précipitamment pendant une réunion où je donne ma démission. Ce que j'aurais plus fait par la suite. Mais bon, voilà, donc j'ai repris mon train, je suis rentré chez moi et j'avais plus de boulot. Et donc là a commencé pour moi une autre vie professionnelle puisque j'ai eu le bonheur de monter avec des partenaires mulhousiens une agence de publicité à Strasbourg. Ça a été 6 ans d'un quotidien riche et un nouveau métier pour moi à apprendre, ce qui n'allait pas de soi. Et donc ça a été ma vie de 2001 à 2007 exactement. Et en 2007, je suis revenu vraiment par un grand hasard dans le groupe Lagardère qui était venu frapper à ma porte et j'y suis entré pour m'occuper de la presse magazine à l'échelle du Grand Est. Lagardère, à l'époque, avait une quarantaine de titres qui depuis ont été, pour la plupart d'entre eux, revendus. Et ce que simplement je n'avais pas compris, c'est que ce qui les intéressait dans mon parcours, c'était précisément la radio que j'avais côtoyée pendant 15 ans, puisqu'eux avaient déjà en tête à l'époque le fait de fusionner les forces commerciales de la presse et de la radio à l'époque. Et donc on s'est employé ça avec plutôt peu de réussite, on va dire, pendant 5-6 ans, et ça a été une aventure enrichissante et une maison pour laquelle je garde une tendresse évidente, mais j'ai passé 9 ans au total dans ce grand groupe. On était 25 000 salariés à l'époque, et quand j'ai quitté Lagardère, j'ai tiré en fait assez peu de leçons de ce que j'avais vu, parce que venant de l'artisanat et intégrant une multinationale, je m'étais dit que ça m'enrichirait à plein d'égards, et puis en fait non, de leçons j'en ai pas vraiment tiré. Ça a été très intéressant, mais la conséquence de tout ça, c'est que je suis ressorti sans avoir plus aucun complexe dans aucun domaine. Les gens que j'ai croisés, je parlais de Flimelin tout à l'heure qui a été un exemple pour moi. Je n'ai pas quitté ce groupe-là avec ces leçons-là non plus qui m'est enrichi vraiment. Mais j'y ai passé 9 ans, vraiment au total 9 années très intéressantes à plein d'égards, avec plein d'anecdotes que je vais garder pour moi. Mais voilà, c'était une tranche de vie, on a refermé cette porte-là, ce paragraphe-là.
Et tu es sauté directement chez Mediarun ensuite ?
Oui, on va la raconter rapidement l'histoire, mais à l'époque chez Lagardère, on commercialisait un certain nombre de supports, en presse, en magazine, sur le plan du digital aussi, et il se trouve que dans le panier de la mariée, il y avait une radio alsacienne qui s'appelait Top Music, que donc je connaissais bien pour y avoir passé quelques années, je vous le racontais rapidement tout à l'heure, et cette radio appartenait à l'époque à deux Parisiens, Jacques Abergel, qui avait été chez Europe 1 lui aussi pendant très 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 longtemps, et puis qui après avait cofondé BFM, et puis Gérard Carrérou, qui avait été patron de la rédac de TF1, et qui étaient deux garçons qui approchaient les 80 ans à l'époque, et moi je leur rendais des comptes commerciaux, puisqu'on était la régie publicitaire de la radio. Et j'ai des énoncements taquinés sur le mode « Bon les gars, le jour où vous vendrez, vous m'appellerez ». Et donc c'est ce qu'ils ont fini par faire il y a quelques années maintenant. Et donc on a pu à ce moment-là effectivement écrire une nouvelle page de l'histoire de cette radio qui a presque 40 ans maintenant.
Et alors qu'est-ce que tu as changé quand tu es arrivé chez Top Music ? T'arrives à la tête de Top Music.
D'abord, je ne l'ai pas fait tout seul parce qu'il se trouve qu'à l'interne, il y avait des gens qui vivaient la radio plus que moi depuis très 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 longtemps. Moi, j'avais un projet assez clair en tête en matière de lifting, je dirais, et de redynamisation de la grille. Et puis, Pascal Muller, qui était animateur sur Top à l'époque depuis déjà 17 ans, est venu me voir un jour en me disant « Tiens, compte tenu du projet que tu as, voilà celui qu'on pourrait partager. » Et puis, il est venu avec un copier-coller de ce que j'avais moi-même présenté à mes associés à l'époque. Je l'ai d'ailleurs soupçonné de m'avoir piqué un jour ma clé USB pour en avoir fait une copie. Et donc, voilà. Donc, ensemble, on a, et avec évidemment les équipes qui étaient déjà en place, on a redynamisé la station, on l'a reliftée sur le plan de l'image, simplement, des partenariats qu'on avait oubliés au fil des années. On a renouvelé nos installations et on a appliqué ici ce que d'autres ont très bien fait pendant 40 ans dans d'autres régions de France. Top l'ayant fait un peu moins. C'était peut-être dû au fait que ses propriétaires de l'époque étaient parisiens, n'habitaient pas la région et donc avaient une vision lointaine de la radio qui a bien fonctionné pendant 35 ans, mais qui en avait encore largement sous le pied quand on l'a reprise il y a 5-6 ans maintenant. Oui.
Donc ça veut dire qu'on a encore des beaux jours à venir pour Top Music.
Oui, si, comme on le disait tout à l'heure, on est capable de nous approprier la vie du territoire et d'y participer soi-même, il n'y a pas de raison, encore une fois, qu'on se détourne de nous. Alors évidemment, il faut être attentif. Le monde des médias est quand même très, très, très chahuté, pour ne pas dire plus, par le digital depuis longtemps maintenant. La presse quotidienne ou hebdomadaire a un vrai problème industriel à régler, parce que éditer un journal toutes les nuits, c'est un vrai challenge à relever. Et moi, quand j'ouvre ma boîte aux lettres le matin, que je tombe sur l'exemplaire des DNA qui n'existait pas quand je suis allé me coucher 7 ou 8 heures plus tôt, je me dis que c'est un défi industriel relevé toutes les nuits. Mais c'est compliqué, parce que le lectorat baisse, et depuis 25 ans maintenant, chaque jour, la presse quotidienne perd de son lectorat. La radio, on est là aussi. Le média, dans sa globalité, est sur une pente baissière depuis quelques années maintenant. À nous, encore une fois, de faire une radio qui ne participe pas à cette baisse-là. Et il se trouve que depuis 4 ans, si le média radio baisse en Alsace irrémédiablement d'année en année, nous, notre audience continue à croître. Ça veut bien dire qu'on fait autre chose que ce que font les autres, qui, et ces autres stations sont précisément en difficulté parce qu'elles perdent du terrain. Donc il faut qu'on entende ça et qu'on s'en serve évidemment pour corriger la grille.
La preuve vivante, c'est que tu fais aujourd'hui ce podcast.
Oui.
C'est une première.
Oui, et je pense que la façon de consommer la radio est aussi en train d'évoluer. Le podcast participe à ce nouveau mode de consommation, je dirais, du média. Donc il faut aussi qu'on s'en imprègne et qu'on entende ça. Je pense que les jeunes générations ne regardent plus la télé. La grand-messe du 20h, c'est juste une idée complètement dépassée depuis très longtemps. En radio, il faut aussi qu'on admette qu'on puisse l'écouter autrement qu'en direct et que donc on puisse aller puiser des contenus qui ont été diffusés à l'antenne avec des podcasts de replay ou alors des podcasts natifs comme celui-ci et quelques autres qu'on développe effectivement depuis la rentrée dernière.
Alors, une vie de radio, est-ce que tu as des échecs que tu as envie de partager et qui t'ont permis de grandir finalement ?
Heureusement, parce que je crois que une vie sur le plan personnel et professionnel, elle est évidemment faite de hauts et de bas. Alors évidemment, des bas, j'en ai croisé. Je crois qu'il y a l'une des différences entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, on considère que les échecs participent à la formation, je dirais, sur le terrain et dans la vraie vie. Alors que chez nous, on peut être vite un paria quand on s'est pris les pieds dans le tapis. Une fois, moi, j'ai un échec. Alors évidemment, avec du recul aujourd'hui, j'en souris moins à l'époque, mais j'avais, il y a 25 ans, eu la mauvaise idée d'ouvrir un magasin disque, puis un deuxième. Et quel meilleur produit peut-on vendre quand on a une radio que la musique qu'on y diffuse ? Donc j'avais ouvert un premier magasin, puis un second, mais c'était au début des années 90. Et à l'époque, la grande distribution avait commencé à se servir du CD pour en faire un produit d'appel. Et je me souviens notamment qu'en 94, Michael Jackson avait sorti un album que j'achetais à l'époque pour le revendre dans mes magasins auprès de Sony, qui était l'éditeur, à 105 francs. Et la grande distribution, je me rappelle notamment d'une grande enseigne colmarienne où j'allais parfois acheter le CD moins cher dans les rayons du magasin à 98 francs par rapport aux 105 que je payais moi. Donc évidemment, on était face à un problème qu'on n'a pas su résoudre, ça a duré 5 ans. Et je me souviens qu'au moment de la fermeture des deux magasins, je devais encore beaucoup d'argent au banquier qui m'avait suivi à l'époque, que j'ai remboursé pendant les quelques années qui ont suivi. Le magasin s'appelait Crocodisque, voilà, dans les années 90, et ça reste un bon souvenir néanmoins, mais c'est vrai qu'économiquement, ça a été une très mauvaise affaire. Mais voilà, on apprend, et même si j'ai été, par cette expérience-là, marqué au fer rouge, et je pense que tout ce que j'ai fait par la suite a été modifié par cette expérience douloureuse. C'est vraiment quelque chose de compliqué.
Vraiment. Tu l'as gardé longtemps sur les épaules.
Oui, j'y pense encore, ce qui me permet, c'est un peu un garde-fou en même temps. Ouais, complètement. Le fait de se dire, voilà, on ne sait pas tout faire. Je pense que diriger une boîte, ça fait appel à des compétences diverses et on ne peut forcément pas toutes les avoir. Donc déjà, il faut être bien entouré et puis après, il faut être capable de reconnaître ses propres limites. Et j'en ai comme tout le monde, bien sûr, heureusement.
Et les choses dont tu es fier au final de ce parcours?
Fier, les gens qui me connaissent... savent que je suis un grand optimiste devant l'éternel, parce que je pense que la vie est belle et courte, donc il faut tous les jours la mordre. Moi, j'ai toujours eu le bonheur, je dirais, de fonctionner en me levant le matin sans être contraint par aller travailler, alors que j'ai autour de moi des gens qui, depuis 25 ans, sont kikines. Donc, je ne sais pas si c'est une fierté, mais enfin, en tout cas, j'ai toujours, pour moi et pour les gens avec lesquels j'ai bossé, essayé de partager ça. Passons un moment... agréable, faisons sérieusement notre boulot sans se prendre au sérieux et tout en se souvenant surtout du métier qu'on ne fait pas. Moi, je n'opère pas à cœur ouvert, je ne pilote pas des A380, donc on va rester humble quand on boulot qui est le nôtre et tous les métiers sont utiles mis bout à bout. Mais voilà, il faut être et humble et en même temps entraîné, je dirais, dans son sillage. Des gens qui partagent la même passion que la sienne, et donc ça c'est peut-être une fierté que de regarder derrière moi, et je suis assez à l'aise avec les relations que j'ai pu tisser avec mes collaborateurs au fil des années. Ouais.
C'est des relations longues que tu as tissées?
Souvent, ouais, souvent, parce que je pense que les gens ont tous des qualités et des défauts, et je crois assez peu au fait qu'on puisse asseoir les gens sur des moules et à coups de maillet les faire épouser les formes du moule. On a tous des qualités et des défauts. Moi le premier, donc travailler avec une équipe, ça veut dire se servir entre guillemets des compétences des uns et des autres, et donc aussi respecter ce que sont les uns les autres. Donc ouais, j'ai des collaborations longues à mon actif, et puis des mix amicaux et professionnels. On dit souvent qu'il ne faut pas bosser avec ses copains ou ses amis, moi je l'ai toujours fait. Et je réfléchis là en le disant, mais je regrette rien en la matière. J'espère qu'en face ils en diraient de même si on les interrogeait, mais on va pas le faire.
Alors parlant justement des gens qui t'entourent, qui aimerais-tu faire monter sur le podium avec toi?
Précisément ces gens-là, je dirais que à la radio ici ou dans les métiers que j'ai pu faire auparavant, encore une fois, c'est toujours un travail d'équipe, c'est un peu en français une porte ouverte que de dire ça, mais c'est vrai quoi. Donc je ne vais pas vous donner de nom là, mais en tout cas les 5-6 personnes auxquelles je pense, ouais, qui ont jalonné mes 30 ans de vie professionnelle déjà, je les emmènerais volontiers avec moi sur le podium. On serrerait un peu pour tous tenir sur les marches les plus hautes. Mais je pense que l'humain est la matière la plus compliquée à gérer, mais aussi la plus passionnante précisément pour ces raisons-là. Donc ce sont ces gens-là, ouais, que j'emmènerais volontiers avec moi, qui, je l'espère, se reconnaîtraient s'ils nous écoutaient. Ouais.
Donc tu as un peu ta bande au final?
Non, c'est une bande qui a évolué au fil du temps. J'ai pas une bande, alors forcément j'ai encore quelques balises des années 80-90 sur lesquelles je m'appuie de temps en temps, mais la bande elle a plutôt changé parce que ma vie a changé avec mes métiers aussi, mais j'ai plusieurs bandes, je dirais, qui sur le plan professionnel ont été des soutiens ou des collaborations au fil des 3 dernières décennies. Ouais.
Il y a un de tes amis qui a appelé ton parcours la théorie du boomerang.
Oui, parce que je suis un peu revenu à la radio sans le vouloir, en fait. Et donc, c'est vrai qu'on a dû envoyer loin le boomerang sur lequel j'étais perché, et puis il est revenu, parce que c'est le principe même du boomerang quand il est bien lancé. Donc oui, c'est assez drôle. Quand j'ai quitté la radio en 2001, jamais j'aurais pensé un jour y remettre les pieds à nouveau, parce que je pensais vraiment avoir fait le tour de la question. Et puis, quand je disais tout à l'heure que la vie était faite d'intersections auxquelles on arrive, et puis on décide là de prendre à droite ou à gauche, et ça a une incidence sur les 25 ans qui suivent, c'est aussi ce qui est bon dans la vie, le fait de se dire appartient. Tous les jours peut être l'occasion d'une rencontre enrichissante et intéressante à plein d'égards. Donc oui, le boomerang, c'est un peu ça. C'est quitter un milieu professionnel et puis revenir un peu vraiment par un jeu de billard à plusieurs bandes, quoi. Donc oui, le boomerang, c'était moi en l'occurrence.
Alors, il y a aussi pour toi, finalement, toute une famille qui a compté en termes de musique. Tu m'as parlé de la famille Chédid.
Alors ça, c'est plutôt ma tasse de thé aujourd'hui, je dirais. Mais la musique que j'écoute, elle est assez francophone. Elle est, c'est typiquement la famille Chédid, ouais. De Louis à Mathieu, son frère, sa sœur. Oui, j'adore ces gens-là et je trouve qu'il y a une espèce d'humanité sincère dans ce qu'ils font. Des artistes à la radio, on en croise évidemment, qui sont sincères pour certains et un peu moins pour d'autres. Et la sincérité incarnée, elle est vraiment celle de la famille Chédid. Donc ça, c'est vraiment un grand souvenir quand je pense à eux en concert, toute la famille, il y a quelques années. Avait fait une tournée, j'avais été les voir. Je crois que Mathieu Chédid, ça doit être le type que j'ai vu le plus sur scène dans ma vie. Et je continuerai demain, parce que je trouve en ce moment, il est assez abonné aux concerts privés sur Facebook ou dans son salon, il sort sa guitare avec sa fille qui passe par là. Et voilà, c'est vraiment des moments forts et humainement importants, je pense.
C'est pourquoi, cocotte, je suis un machiste, girl. Et je sais qu'elle m'adore. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Laisse-toi aller, c'est que ça c'est le macho. Question de rêve, de rage malgré moi. J'ai pourtant été sage jusque-là.
Alors j'ai envie de terminer sur une jolie phrase que tu m'as donnée. Nourris-toi du conseil ou de l'expérience des autres. Et finalement, ne pas s'entêter, écouter les autres. C'est un petit peu ce qu'on a envie de retenir de ton expérience.
Bah, je crois déjà que c'est la sagesse que les années nous imposent. Je pense que quand on arrive à 20 ans, on est parfois peut-être un peu tête brûlée et puis on pense avoir tout compris dans la vie en général et sur le plan du boulot aussi. Je pense qu'avec les années qui passent, oui, il faut être conscient du fait qu'on peut ne pas renoncer à ses projets et à ses envies, mais il faut aussi se nourrir de l'expérience que les autres ont, qu'on n'a pas forcément soi-même. Et encore une fois, on ne fait jamais rien seul, hein, ni au sein de son foyer, ni au sein d'une entreprise, qu'elle soit la nôtre ou pas, c'est pas la question, mais écoutons ce que les autres font mieux que nous et je pense qu'on peut s'en servir et nous appuyer les uns sur les autres.
Bah merci Christophe.
Merci Caroline.
À bientôt.
À bientôt.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.